Marc 6, 14, 44. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, « Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient, « C'est Élie. » Et d'autres disaient, « C'est un prophète comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il écoutait. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5 000 hommes.
C'est bon ? Je me suis fait gronder tout à l'heure parce que le micro était... Je n'ajustais jamais le micro avant de commencer. Ça va comme ça ? Okay. En France, les rois, c'est pas trop notre truc. Et pourtant, paradoxalement, nous avons une sorte de fascination pour la royauté. Ce matin, sur mon téléphone, j'avais une alerte info qui me disait qu'il y avait maintenant des photos du bébé royal britannique qu'on pouvait aller voir. Et voilà, cette naissance du Royal Baby a fasciné les gens un peu partout dans le monde, y compris en France. Pourquoi cette fascination pour la royauté ? Je me demande s'il n'y a pas une aspiration en nous à une autorité juste et bonne qui rassemble un peuple autour d'une identité commune, qui inspire et élève plutôt qu'elle n'opprime. Et peut-être que dans ce monde, on ne trouvera pas beaucoup mieux que l'inoffensive monarchie britannique pour nous renvoyer un peu à de tels idéaux. Mais l'histoire montre bien que lorsque les rois ont un véritable pouvoir, ils l'utilisent souvent mal, voire très mal. Et ça nous permet de constater l'écart entre l'idéal d'une autorité juste et droite et la réalité souvent beaucoup moins heureuse. Mais je vous soumets que le texte que Genova vient de nous lire nous montre le contraste entre deux souverains, entre deux rois, Hérode et Jésus-Christ. Et derrière Hérode, d'une certaine manière, c'est l'autorité humaine, l'autorité telle que les hommes la veulent, qui, de manière certes caricaturale, mais qui est en cause. La question que je nous pose ce soir est la suivante. De quelle autorité avons-nous besoin ? Et on va y réfléchir en deux temps. D'abord, le portrait du roi selon les hommes, ensuite le portrait du roi selon Dieu. Donc d'abord, le portrait du roi selon les hommes. Alors les versets 14 et 29, la première partie donc du texte, sur laquelle on entend sans doute assez rarement finalement des prédications, forme une sorte de flashback dans le récit de Marc, une parenthèse historique. Et le texte commence par un état des lieux des différentes réactions à Jésus. Alors que le ministère de Jésus prend de l'ampleur, sa renommée ne cesse de grandir, il y a plein de réactions différentes. Et parmi celles-ci, il y a la réaction du roi Hérode, qui a entendu parler de Jésus et qui se dit « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » Et du coup, Marc va nous expliquer comment Jean-Baptiste a été décapité par Hérode. Il explique cela. Mais il y a plus ici qu'une simple note de bas de page historique. Marc place cet épisode de la mort de Jean-Baptiste au sein d'une description du ministère de Jésus qui envoie ses disciples en mission pour proclamer à Israël le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et ça nous amène à nous poser la question du contraste entre ce royaume de Dieu proclamé, inauguré par Jésus, et le royaume très humain qui est celui d'Hérode. Et en fait, cet extrait nous montre que dans l'histoire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On pourrait donner d'autres exemples un peu semblables à celui-ci. Dieu a institué les autorités pour qu'elles dirigent les hommes avec justice et ultimement pour qu'elles les amènent à mieux le connaître et à le servir. Mais de tout temps, l'homme, animé par le péché, par la rébellion contre Dieu, tend à utiliser le pouvoir pour satisfaire ses propres appétits. Et à vrai dire, ce n'est pas seulement le fait des rois et des dirigeants, c'est un constat qui est valable pour l'humanité d'un point de vue général. Un pasteur et auteur, Timothy Keller, a écrit un excellent livre, Les idoles du cœur, dans lequel il identifie les trois grandes idoles de notre temps et d'une certaine manière de tout temps. L'argent, le sexe et le pouvoir. Alors cette analyse en soi n'est pas très originale, mais elle est juste, me semble-t-il. C'est vrai à tous les niveaux de la société et peut-être de façon toute particulière au sein des élites, en quelque sorte. Voilà, ces idoles de l'argent, du sexe et du pouvoir. J'ai lu récemment un livre qui faisait le portrait de l'ancien directeur de l'école où j'ai étudié quelques années. Alors je précise que je ne parle pas ici de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine où j'ai aussi étudié, mais d'une autre école que je ne nommerai pas ici. Mais il était frappant de voir combien dans la vie de cet homme, donc ancien directeur de cette école, ces trois idoles, argent, sexe et pouvoir, étaient constamment au cœur de son action, de ses rêves et de ses projets. Mais notre texte nous montre qu'il y a à peu près 2000 ans, le cœur de l'homme était dans le même état. Marc nous présente au verset 14 Hérode comme un roi. En disant ça, c'est un peu généreux de sa part, ou peut-être que c'est ironique, parce qu'en réalité Hérode était plutôt une sorte de gouverneur, un sous-roi, un tétrarque, pour reprendre le terme exact que Matthieu et Luc utilisent dans leurs évangiles. Et précisons ici qu'il s'agit d'Hérode Antipas, donc le fils du Hérode du moment de la naissance de Jésus. Ce n'est pas le même, hein, c'est son fils. qui avait moins de pouvoir que son père, mais qui moralement n'était pas beaucoup mieux. Une sorte donc de gouverneur de la Galilée qui se voulait roi, mais qui était pour l'essentiel un pantin de la puissance romaine. Donc Hérode organise pour son anniversaire un festin qui réunit, verset 21, ses grands, les chefs militaires et les personnalités de la Galilée. Donc une sorte de dîner du siècle ou du Rotary Club de l'époque, en quelque sorte. Et à cette occasion, on voit bien en évidence les trois idoles mentionnées plus tôt. Il y a l'argent, festin, une fête privée avec l'élite. Il y a la sensualité, une jeune fille, peut-être une très jeune fille, je ne sais pas trop, qui danse, vraisemblablement une danse érotique pour son beau-père. Il y a le pouvoir, la prétention d'Hérode de donner à cette jeune fille tout ce qu'elle lui demandera et jusqu'à la moitié de son royaume, verset 23. Petite note en passant, en fait, Hérode n'avait pas du tout l'autorité de confier la moitié de son royaume à qui il voulait. Il était complètement sous l'autorité des Romains. Mais voilà, c'était pour garder les apparences, comme le dit d'ailleurs le texte, verset 26, pour faire bonne impression devant ses invités. Marc nous décrit cette scène avec une sorte de détachement, avec une forme de neutralité, en nous laissant nous-mêmes tirer nos conclusions sur les qualités morales des Roms ou leur absence. Mais quand on pense à la responsabilité des rois dans la Bible, des rois que Dieu a institués sur Israël pour conduire le peuple, dans le respect de la souveraineté de Dieu et du bien commun, on voit qu'il y a un écart saisissant. Et ce n'est pas étonnant que quelques versets plus loin, Jésus, voyant la foule, a cette pensée, il les voit, et c'est une référence à des textes de l'Ancien Testament, il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ben oui, celui qui théoriquement devrait être le berger est trop occupé à faire la fête et à entretenir sa cour de flatteurs. Et dans cet épisode, Hérode se montre immoral, imprudent, impulsif, irrésolu, violent, un peu tout ça en même temps. Et c'est une histoire, il faut dire, particulièrement sordide. En lisant le texte ce matin, au culte du matin, où il y a pas mal de... Alors les enfants étaient normalement déjà au club biblique, mais je me suis dit, c'est le genre de texte qu'on hésite presque à lire devant tout public, tellement il est sordide. Hérode, qui a déjà répudié sa première femme pour épouser sa belle-sœur, porte maintenant un regard de convoitise sur la fille de cette dernière. Et donc la femme d'Hérode, Hérodiade, a une dent contre le prophète Jean-Baptiste parce qu'il a dénoncé son mariage avec le roi. Et donc, elle va carrément demander sa tête sur un plateau, littéralement. Et cet ordre sera appliqué littéralement. Et si on veut prendre la mesure de la décrépitude morale de la cour d'Hérode, il suffit de considérer le fait que ce garde qui a décapité Jean va apporter sa tête à sans doute une adolescente qui, elle, va la porter à sa mère. Malgré cela, Hérode nous est décrit avec quelques complexités. C'est assez frappant. Il a emprisonné Jean, mais il semble le garder un peu comme sa conscience morale privée. Il va le consulter. Manifestement, il est remis en question par l'enseignement de Jean. Le verset 20 nous dit qu'il est souvent perplexe en l'écoutant. Et puis juste avant, il nous a dit qu'il le protégeait parce qu'il savait que c'était un homme juste et bon. Il rend son choix, son action ultérieure encore plus grave dans un sens. Il ne peut même pas plaider l'ignorance. Il est souvent perplexe en l'écoutant, sans doute perplexe sur sa vie et sur ses choix. Et il nous est même dit que c'est avec plaisir qu'il écoutait Jean-Baptiste. Et quand sa femme lui demande la mort de Jean-Baptiste, il fut attristé. Mais au fond, qu'est-ce qui guide Hérode? Le texte montre bien, c'est sa renommée, verset 26, à cause de ses invités. Ses désirs pécheurs, verset 22, sa belle-fille qui lui plaît. Et son pouvoir, le petit peu de pouvoir dont il dispose, mais qui est suffisant pour faire le mal, pour tuer un homme de Dieu, Jean-Baptiste. Hérode se laisse guider, ça et là, par son péché. C'est lui qui devrait guider le peuple, c'est lui qui devrait amener le peuple vers le bien, qui devrait amener le peuple vers Dieu, mais au lieu de cela, il est incapable de se gouverner lui-même. On a donc un peuple perdu, conduit par des dirigeants perdus, sans boussole, sans repère, simplement conduit par leurs appétits. Et c'est le triste constat de ce passage. Et même si, vous direz peut-être que tous les dirigeants humains ne sont pas aussi mauvais qu'Hérode, c'est vrai, heureusement, mais force est de constater que la situation du cœur de l'homme et la situation de l'humanité n'a pas fondamentalement changé. En méditant sur ces foules que Jésus voit et qui sont comme des brebis sans berger, le célèbre théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a eu ses propos, des questions et point de réponse, de la détresse et point de secours, le péché et point de pardon. N'est-ce pas une parfaite description de notre époque aussi, des questions et point de réponse, de la détresse et pas de secours, le péché mais pas de pardon. Alors que retenir pour nous de cet épisode avec Hérode? On pourrait dire à première vue, ce n'est pas évident d'appliquer ce genre de texte. En premier lieu, ce constat déprimant de l'autorité humaine renforce ou doit renforcer notre aspiration à une autorité juste, une autorité qui nous amène à Dieu, plutôt que de nous en éloigner toujours plus. Nous avons besoin d'être conduits par un bon berger, parce que nous n'avons pas été créés pour être nos propres dieux qui se conduisent eux-mêmes, mais pour être aimés et conduits par notre Créateur. Ensuite, une application moins directe, mais que je crois justifiée aussi. J'ai évoqué la complexité, malgré tout, d'Hérode. Et c'est vrai qu'Hérode, sans doute, ne s'est pas réveillé un jour en disant « Je vais épouser ma belle-sœur, je vais convoiter sa fille et je vais décapiter un prophète. » C'est peu probable. Mais il s'est laissé entraîner sur la pente glissante du péché. Un peu d'égoïsme par là, un peu d'ambition par-ci, un peu d'érotisme, un peu de lâcheté. Et ça l'a amené à faire des choses sordides que peut-être il n'aurait jamais imaginées au départ. Et la Bible nous montre à bien des reprises l'emprise que le péché a sur le cœur, en nous entraînant à aimer toujours un peu plus le mal et toujours un peu moins le bien, si on laisse libre cours à ce péché. À nous laisser berner aussi par de fausses justifications de notre comportement. Oui, je sais, c'est pas bien de me tourner vers la pornographie, mais après tout, ça fait de mal à personne. Et pourtant, c'est un poison pour le cœur. Oui, je sais, je devrais pas parler toujours d'un tel ou d'une telle derrière son dos, mais franchement, tout le monde fait la même chose. Et pourtant, c'est un poison pour les relations. Oui, je sais, je devrais être plus généreux avec mon argent, mais après tout, c'est mon argent. Je l'ai gagné honnêtement. C'est à personne d'autre. Et pourtant, la dépendance à l'argent, c'est un poison pour la foi. Oui, je sais, je devrais pas passer autant de temps avec ceux ou cette collègue du sexe opposé plutôt qu'avec ma propre femme ou mon propre mari. Mais bon, il ne s'est rien passé jusqu'ici, et puis voilà, on a des affinités, c'est naturel. Et pourtant, c'est un poison pour le couple et pour la famille. On pourrait citer bien d'autres exemples. Des mensonges que nous finissons par croire nous-mêmes. Et nous n'avons sans doute pas, ici j'imagine que personne n'a le pouvoir même limité d'un Hérode, mais nous avons sans doute aussi nos pentes glissantes, chacun d'entre nous. Et si nous ne nous sommes pas encore laissés entraîner trop loin, bah justement c'est peut-être le bon moment pour nous remettre en question sur tel ou tel point, et moi le premier, avant que les conséquences ne soient trop grandes. Quelles sont nos idoles du cœur? Quelles sont nos pentes glissantes? Un peu lié à cela, un autre détail du texte peut nous interpeller. Hérode écoute Jean-Baptiste avec plaisir. Il écoute la parole de Dieu avec plaisir. Ça ne va pas l'empêcher de faire exactement le contraire de ce qu'il dit. Et même de tuer celui qui lui annonce cette parole. Son cœur avait besoin d'un changement bien plus radical que de simplement écouter superficiellement. Et ce changement radical, seul Jésus pouvait le lui apporter. Ça nous amène au second point, le portrait du roi selon Dieu. Pendant l'occupation, la France était officiellement dirigée par le maréchal Pétain, l'État français. On sait à quelle indignité, à quelles horreurs cela a conduit. Mais avec le recul, il est clair que le pouvoir français légitime, celui qui correspondait aux besoins réels du pays, qui était fidèle à la vocation du pays, se trouvait en exil à Londres, avec le général de Gaulle. En Galilée, à l'époque de notre texte, le chef du peuple, sur le papier, c'est Hérode, c'est sûr. Mais en proclamant la venue du royaume de Dieu, en envoyant ses disciples proclamer la venue de ce royaume partout dans le pays d'Israël, Jésus, implicitement, mais clairement, revendique l'autorité légitime sur le pays. Et quand il voit les foules, il est ému parce que le peuple n'a pas de berger. Autrement dit, pour Jésus, la prétendue royauté d'Hérode ne vaut rien du tout. Hérode n'est absolument pas le berger qu'il prétend être. Et en lisant cet épisode de la multiplication des pains, le contraste avec Hérode est frappant. Hérode organise une fête en son propre honneur. Jésus, qui au départ avait l'intention d'aller se reposer avec ses disciples, se laisse émouvoir par les besoins du peuple. Hérode fait mourir celui qui lui apporte l'enseignement de Dieu. Jésus, face à l'errance du peuple, lui apporte l'enseignement de Dieu. Hérode organise un festin pour la petite élite du pays. Jésus nourrit une foule de 5000 personnes qui n'avaient rien suivi. Les partisans d'Hérode le flattent et le poussent à commettre le mal. Les disciples de Jésus vont de ville en ville proclamer la restauration et la délivrance. Donc il y a un contraste très fort. Mais bien sûr, il y a plus dans ce texte que le simple contraste avec Hérode. Et là, je reviens à la question que Marc nous pose depuis le début de son évangile. Qui est Jésus? Et d'où lui vient son autorité? Et c'est à ces questions, en premier lieu, que Jésus répond par le miracle de la multiplication des pains. Je ne vais pas revenir très en détail sur cet épisode bien connu. À partir de 3 fois rien, Jésus nourrit une foule entière. Il y a même un large surplus. Oui, il y a là un geste de compassion envers une foule qui n'a rien à manger, mais il y a plus que cela. Et d'ailleurs, on note que lorsqu'il voit leurs besoins, la première réaction de Jésus n'est pas de les nourrir physiquement, mais de les enseigner. Verset 34, de les nourrir spirituellement. Et comme très souvent, le miracle illustre l'enseignement. Les foules n'ont pas de berger, mais Jésus vient à elles précisément comme les bergers dont elles ont besoin. Quelle est la vocation d'un berger ? À Paris, c'est vrai qu'on ne voit pas des bergers tous les jours. Alors quand je dis ça ce matin, quelqu'un est venu me voir après pour me parler des berges, des moutons sur le bord du périphérique. Et en me disant, il doit bien y avoir des gens quand même qui les gardent. Donc voilà, c'est dit. Il doit y avoir des bergers à Paris, mais il n'y en a quand même pas autant qu'en Galilée à l'époque. Et en fait, la vocation d'un berger, c'est quoi? En premier lieu, c'est d'amener son troupeau là où il y a de quoi boire et manger. Donner du repos au troupeau, lui donner les forces nécessaires lorsqu'il n'en a plus. Jésus va faire cela en enseignant le peuple et ensuite en illustrant cette action par le geste. Il nourrit la foule affamée. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte à première vue. Donc, ça m'a vraiment frappé dans la préparation de ce message combien cet épisode fait fortement écho au célèbre psaume 23. Et je propose de lire, enfin, de l'écouter, je vais lire ce psaume, les versets 1 à 5. Et on va voir combien ça fait écho avec cet épisode de la multiplication des pains. Psaume 23, donc. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal quand tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma tête. Et sans vouloir forcer le texte, les échos sont nombreux et frappants. Jésus est implicitement présenté comme un berger. Il conduit la foule près des eaux paisibles du lac de Galilée. Il la nourrit. Il la conduit dans les sentiers de la justice par son enseignement. Et après avoir nourri chacun, ça déborde. Il y a encore des restes. Ce récit met en évidence le roi envoyé par Dieu, le roi serviteur, le bon berger, venu se mettre au service de son peuple pour prendre soin de lui, pour le conduire dans la justice, pour le protéger, pour le conduire. Alors, il y a d'autres échos bibliques dans ce texte qui vont être relevés plus directement dans les autres évangiles. Notamment, il y a un écho aussi à l'épisode de la manne dans le désert pendant l'Exode. Mais Marc, il me semble, met avant tout en évidence le rôle de Jésus comme berger, comme conducteur de son peuple, comme roi selon Dieu. Un roi qui conduit son peuple au lieu de se laisser conduire par son propre péché. Un roi qui donne la vie, qui renouvelle les forces au lieu de se repaître lui-même et de semer la mort autour de lui comme la forêt. Et c'est de ce roi dont nous avons besoin aujourd'hui encore. Nous avons besoin d'une autorité qui nous élève au lieu de nous rabaisser. Une autorité qui fait appel à ce qui en nous reste de l'image de Dieu plutôt que de flatter nos instincts péchés. Et la question se pose pour nous ce soir, qu'est-ce qui nous conduit? Qui est-ce qui nous conduit? Alors pour ceux parmi nous qui ne sont pas encore chrétiens, il y en a certainement, la question est primordiale. Combien de temps est-ce que je vais m'accrocher à l'illusion que je n'ai pas besoin d'un berger? L'illusion que je suis parfaitement autonome et que je peux, par mes propres forces, vivre la vie pour laquelle j'ai été créé. Combien de temps est-ce que je vais continuer à croire que je peux, par mes propres choix et mes propres valeurs, que je crois bon, échapper à la futilité d'une condition humaine dévoyée, déracinée de la volonté du Créateur? Il est temps de revenir au bon berger, de se laisser conduire, protéger, nourrir, pas pour rater sa vie, pas pour perdre sa vie, mais au contraire pour se trouver véritablement, pour vivre la vie que nous sommes appelés. Parce que se laisser conduire par Dieu, c'est pour ça, précisément, que nous avons été créés. Mais même pour les chrétiens, la question se pose quotidiennement, en tout cas, elle devrait se poser quotidiennement. Qu'est-ce qui guide et qu'est-ce qui motive mes choix? En quoi, en qui est-ce que j'ai placé mon espérance? Est-ce que je crois réellement que je ne manquerai de rien si je fais confiance à Jésus? J'espère que c'est facile à croire dans les circonstances de Dieu. Est-ce que je crois que Jésus sera toujours là? Ou est-ce que nous cherchons sans cesse à assurer nos arrières en suivant nos propres priorités, en suivant nos propres valeurs que nous avons choisies pour nous-mêmes? Enfin, en considérant la multiplication miraculeuse, est-ce que nous avons compris que Dieu n'est pas limité par nos limites, que les ressources de notre bon berger sont inépuisables? Si nous comprenons vraiment ce qu'est la puissance de Dieu, cette puissance qui relève, qui conduit, qui protège, qui nourrit, nous trouverons de moins en moins attirant l'artifice de la puissance humaine, ces petits prestiges, ces petites convenances, et l'ivresse de ces idoles du cœur, l'argent, le sexe, le pouvoir, etc., etc. Alors faisons régulièrement le point. Qu'est-ce qui me conduit? Qui est-ce qui me conduit? Et marchons à la suite de notre bon berger.